Radio Ici et Maintenant, 95.2 Paris Île-de-France et sur le net ici et maintenant.com. Je vous rappelle que donc nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, auteur de nombreux bouquins et également de BD de vulgarisation scientifique avec son personnage Anselme Lanturlu et d'un site internet jp-petit.com. Et nous parlons donc de la parution de son livre, nouveau livre sur les ovnis. OVNIs, le voile se déchire, chez Albin Michel, dans les prochaines semaines, quelques grosses semaines, n'est-ce pas? Et avec un nouvel intervenant prénommé Manu. Bonjour.
Est-ce que je peux me permettre de faire une petite remarque comme ça, parce que ma foi, c'est la chance d'avoir l'antenne, c'est que sur mon site, les gens pourront trouver également la possibilité de se procurer un CD-ROM sur lequel il y a 19 bandes dessinées à moi. Donc ils peuvent en avoir direct et les voir à l'écran ou les imprimer. Je vous écoute, Manu.
Oui, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre Petit. Je suis vraiment très très content de pouvoir vous parler par radio interposée. J'ai lu votre livre Enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous. Je dois dire que c'est assez stupéfiant. Je m'intéresse depuis assez peu de temps au dossier OVNI, un peu par hasard. Je dois dire que ça m'est tombé dessus et en faisant des recherches sur Internet, j'ai croisé les informations avec un sentiment très sceptique au départ. Et finalement, j'en suis arrivé à me dire qu'effectivement, il y avait quelque chose de sérieux derrière tout ça. Je me suis procuré le rapport Cometa, qui est toujours disponible auprès de GS Press, et puis différents autres VLD qui sont parus depuis. Alors, vous avez commencé tout à l'heure à évoquer le Majestic 12. C'est quelque chose que j'ai vu régulièrement sur le web. Et c'est un petit peu comme Roswell, on a du mal à y croire au début, jusqu'à temps qu'on creuse un peu. Et là, vous écoutez, vous, Jean-Pierre Petit, parler du Majestic 12, ça m'a fait tout bizarre, comme si on me disait tout d'un coup que le Père Noël existait bien. Donc, je voulais savoir si vous pouviez nous dire quelques mots là-dessus.
Moi, j'ai pas parlé du Magic 6-12. J'ai simplement dit la chose suivante, c'est qu'en 35 ans, des choses qui me paraissaient totalement incroyables, dont je riais, les années passées, je me mettais à rire beaucoup moins. Je me souviens d'une plaisanterie qu'avait un ami à propos de Roswell. Il disait l'Air Force a des extraterrestres plein ses frigos. La preuve que c'est vrai, c'est qu'on n'en parle pas. Et on trouvait ça très drôle. Ben maintenant, on ne sait pas s'il n'y a pas des extraterrestres dans les frigidaires de l'Air Force. Voyez. Donc maintenant, je ne m'avance plus. Maintenant, quand on était en Angleterre, on a parlé avec ces Américains et on arrivait un petit peu, peut-être pas au bout de ce qu'ils savaient, parce qu'évidemment les gens ne disent pas tout, mais ils ont confié un petit peu leur problématique à eux en se demandant s'il n'y avait pas un contact entre au moins les Américains et sinon d'autres, et avec d'autres ethnies extraterrestres. Comment ça pouvait se gérer? Alors évidemment, tout ça s'est apparu un petit peu avec les révélations de lire là sur Majestic 12. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? C'est comme ça que ça s'appelle? J'en sais rien. Mais toujours est-il que à la charnière de l'époque où le phénomène OVNI s'est révélé, et Paul Lyon évoquait le fait que d'après les humites, en 47, il y a eu un pli hyperspatial qui fait qu'il y a eu un afflux considérable de touristes. Dans les textes, ils disent qu'il y a des gens qui ont pu venir nous visiter de 400 années-lumière de distance, parce que les conditions étaient bonnes. Bon, on ne maîtrise pas complètement ce genre de sujet, mais ça explique cet afflux. Et à ce moment-là, au moment où il y a cet afflux, il y a des pays, il y a les États-Unis, et éventuellement aussi les Russes, qui réalisent que c'est réellement extraterrestre, et qui le cachent. Hein, qui le cache parce que c'est un avantage stratégique de le savoir. Les Européens passent complètement à côté, les Anglais passent à côté, les Allemands passent à côté, les Italiens passent à côté, tout le monde passe à côté. Il n'y a que ces deux puissances, ou peut-être d'autres, qui le savent et qui le gardent jalousement pour eux. Bon, ensuite, est-ce qu'il y a des contacts? Comment les choses se font-elles? Dans mon site, j'ai raconté ça de manière un petit peu humoristique, avec deux extraterrestres qui discutent, en disant qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les aide cette fois-ci? Ou est-ce qu'on on leur laisse prendre en pleine poire ce géocroiseur qui va encore les ramener à l'âge de pierre? C'est vrai que, pourquoi est-ce que un système planétaire comme le système terrestre pourrait-il avoir la malchance d'avoir des objets comme ça qui se baladent? Ben, y a une explication astrophysique qui est très simple. Au moment où le système solaire se forme, il peut y avoir un objet de la taille de la Terre ou de 4 ou 5 fois la Terre qui est accéléré par effet de marée par une planète géante et qui se trouve à ce moment-là placé sur une orbite très excentrique, avec une période de 2500 ou 3500 ans, très elliptique, et en plus inclinée par rapport au plan de l'écliptique. Donc elle rentre de temps en temps, comme ça, puis elle ressort, puis elle rentre, puis elle ressort. Et de la façon dont ça se passe, elle n'est pas configurée de manière à interagir gravitationnellement avec les autres systèmes, avec les autres planètes, et se ranger tranquillement dans le plan de l'écliptique. Elle est exotique comme ça. Et il y a peut-être des systèmes planétaires qui n'ont pas ça. Alors à ce moment-là, ils sont tranquilles, les trajectoires se circularisent, nous n'avons aucune chance de rentrer dans Vénus ou dans Mars, chacun est bien comme sont les lignes d'un micro-sillon, on est bien tranquille, trajectoire circularisée, plan de l'écliptique, mais nous, on n'a pas de chance, on a cette espèce d'objet qui dégringole. Alors cet objet, ça peut être un objet unique, mais ça peut être aussi un paquet de fragments, parce qu'il y a deux phénomènes, il y a l'effet de fronde, et puis il y a aussi l'effet de marée quand on pénètre dans la limite de roche. La limite de roche, tous les objets qui ont une masse M, comme la Jupiter, ont une limite en distance, et quand on pénètre à l'intérieur de cette limite, les objets sont fragmentés. Donc à ce moment-là, moi ce que je pense, c'est que s'il y a un danger, c'est pas une planète, c'est pas un objet, c'est pas la planète X, la dixième planète, comme ça qui nous menace, c'est un essaim de débris, qui sont à la fois des débris solides ou des morceaux de glace et tout ça. Et ça, c'est horriblement dangereux, parce qu'en plus, sous forme d'essai, c'est encore plus vaste, c'est encore plus grand. Et la question qu'on peut se poser, c'est les deux jeux au croiseur qu'on vient de se taper cette année, est-ce que c'est un phénomène tout à fait exceptionnel, ou est-ce que c'est pas les précurseurs? Parce que ça se disperse sur la trajectoire, un truc comme ça. Ça reste pas groupé, quoi. Alors, si la Terre est gênée par ce genre de choses, et ben tous les X années, tous les X dizaines de milliers d'années, tous les X millions d'années, pof, elle se prend un truc, et elle retourne à l'âge de pierre, ou même bien avant. Et à ce moment-là, on a une civilisation qui a bien du mal à émerger. Alors, ça s'est peut-être produit une fois, et là, on arriverait... Ah oui, alors la question c'est Majestic. Ma femme me rappelle que la question que vous posiez c'était Majestic 12. Alors Majestic 12...
C'est quand même très intéressant, mais merci à votre femme quand même de rappeler. Mais peut-être que je me suis dit que vous vouliez peut-être pas en parler.
Si. Mais Majestic 12, j'ai pas d'informations particulières là-dessus. C'est simplement un bruit, mais des bruits il y en a eu tellement. Rappelez-vous par exemple, tout ça c'est parti un petit peu, je crois il y a 20 ans, des révélations de John Lear, hein. On a vu apparaître en paquet le Majestic 12 avec toute une liste de gens qui étaient censés se réunir de manière ultra secrète. On a aussi entendu parler de l'ère 51, du fait qu'il y ait des ethnies qui se livraient à des clonages avec les humains. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'en sais rien, mais c'est possible. Mmh. Et quant à la façon... ces Américains que je voyais en Angleterre, ils ont bien résumé la question sous forme humoristique en disant la question importante, c'est qu'est-ce qui a loué la terrasse au dernier étage de l'immeuble. Hein, qu'est-ce qui tient le pouvoir là-dedans? Parce que pour tenir le pouvoir sur des gens, c'est extrêmement facile. Hein. Vous prenez un gars qui a un pouvoir militaire ou politique important. Vous voulez vous assurer de sa collaboration, mais vous lui foutez un implant crânien et vous lui dites, cher ami, si vous nous emmerdez, on vous fabrique un Alzheimer rapide et on va vous faire une démonstration. Vous voyez, on appuie sur un bouton, on vous transforme 48 heures en légumes, et après on vous remet en état. Alors vous obéissez ou vous obéissez pas? C'est redoutable un truc pareil. Et en plus, un implant comme ça, s'il est non métallique, il est même pas détectable par radio. Des gens qui ont une maîtrise de la biologie aussi importante peuvent très bien disposer des implants crâniens dans la tête des gens ou simplement agir sur eux à distance, sur certaines formations de leur cerveau, de façon à les prendre sous contrôle complet.
À l'aide de micro-ondes, par exemple.
Alors là, vous avez vu ce qui commence à émerger à propos des micro-ondes. Moi, je reçois des messages de gens que j'ai commencé à répercuter. Je ne sais plus comment s'appelle ce projet, mais c'est tout à fait logique. Je veux dire que l'histoire de l'Alaska, c'est ce que évoquait Didier Duplèche tout à l'heure. Avec des micro-ondes, on peut ioniser l'air. Hein, et on peut ioniser en très haute altitude. Et rappelez-vous du temps où les gens n'avaient que les ondes courtes. Hein, eh bien, les radioamateurs communiquaient la nuit en faisant réfléchir leurs ondes radio sur des couches atmosphériques très hautes, qui étaient stratosphériques, ou même plus que ça, à 80, 100 km d'altitude. Bon, ben là, au lieu de d'utiliser ces couches qui sont créées par le bombardement solaire ou des phénomènes de ce genre, bah à ce moment-là, on les fabrique artificiellement en envoyant des ondes électromagnétiques style ondes radar et on crée cette ionisation. Alors une fois qu'on a créé cette ionisation, ça signifie qu'on a fabriqué un miroir de très grande dimension, très très plat et en altitude. Et sur ce miroir, eh bien, on peut diriger des pinceaux d'ondes électromagnétiques d'autres natures, les faire se réfléchir là-dessus et toucher un point de la Terre. Et moi, je ne croyais pas à ce genre de choses. Il y a 20 ans, par exemple, il y a des gens qui évoquaient une chose en disant « Ah, peut-être qu'un jour, on saura faire des armes climatiques. » Et quand on parle d'une chose comme ça, comme une arme climatique, on se dit « Mais le climat, mais ça nécessite des énergies absolument phénoménales. Le moindre orage de campagne, c'est 15 bombes à hydrogène. » Quoi. Je veux dire, comment est-ce que nous, fourmis lamentables, pourrions arriver à toucher au climat terrestre ? Eh bien, on peut peut-être le faire en touchant à l'ionosphère, en touchant des trucs comme ça, avec des sollicitations, c'est un peu comme l'effet papillon, quoi. On ne peut pas créer un cyclone, mais on peut l'orienter, on peut le diriger, on peut lui créer un chemin préférentiel. Et ça, c'est déjà une première explication de ce genre de choses. La seconde, c'est l'utilisation pour détecter la position des sous-marins nucléaires ennemis. Et ça, c'est une priorité stratégique considérable. Qui est capable de savoir où sont les sous-marins nucléaires ennemis ? Et on a parlé à ce moment-là de... On parle de sonar, mais c'est peut-être des micro-ondes, un truc comme ça. Et si les Américains ont une technique pour arriver à visualiser avec des pulsations en basse fréquence les sous-marins nucléaires ennemis, ils vont l'employer. Et s'ils l'emploient, ils fusillent les systèmes d'orientation de tous les cétacés. Et moi, j'ai posé la question, parce que tout d'un coup, j'ai pensé à ça. J'ai dit, mais est-ce que ça expliquerait pas les échouages de cétacés, etc. Et moi, j'ai reçu des réponses que j'ai remis dans mon site de gens qui m'ont dit, mais les gens commencent à en parler de plus en plus. Il y a des conséquences écologiques catastrophiques. Et pour un pays comme l'Amérique, entre sauver les baleines et savoir où sont les sous-marins chinois, ils n'hésitent pas une seconde. Quoi. Alors il y a donc toucher au climat, détecter les sous-marins ennemis, et puis alors quand vous lisez ce site internet, je ne sais plus comment il s'appelle, qui évoque ce genre de choses, alors les bras vous en tombent, parce qu'effectivement, avec des micro-ondes pulsées, on peut provoquer des sécrétions endocrines dans le cerveau des gens, on peut modifier leur comportement, c'est cancérigène, ça peut créer des maladies, c'est fabuleux. On peut faire n'importe quoi, un truc comme ça. On peut contrôler des populations. Il est dit que le premier usage opérationnel qui a été fait de ce genre de choses-là, ça correspond à la guerre du Golfe. On a abruti les soldats irakiens avant de les attaquer. Et est-ce que c'est de la science-fiction ? J'en suis pas sûr. C'est possible.
Voilà, est-ce que je peux poser une dernière question ?
Oui.
Dans le dossier OVNI que j'ai étudié jusqu'à maintenant, il y a vraiment un élément qui me semble important, c'est l'ancienneté du phénomène. Dans le rapport Cometa, on va jusqu'à l'Antiquité, on cite Pline l'Ancien, Tite Live, Cicéron, qui relatent l'apparition de lumière dans le ciel, de boucliers ardents, de lunes et de soleils multiples, de sphères volantes de couleurs dorées. Donc c'est des témoignages comme ça au travers de l'histoire de l'humanité, il y en a plein, à différentes époques, à toutes les époques. Donc cette permanence du phénomène et cette ancienneté du phénomène pose quand même beaucoup de questions. On est au minimum surveillé, mais on peut de là imaginer tout un tas de choses. Conduit avec plus ou moins de précision, on va dire.
N'importe quoi, des hybridations, n'importe quoi.
Manu, on se dit au revoir et on laisse Jean-Pierre Petit répondre, hein, d'accord ?
Oui.
Salut Manu, merci pour ton intérêt. Jean-Pierre Petit, une seconde encore, le standard pour prendre la place de Manu est le 01 45 75 44 44. Voilà, une réponse à Manu ? Oui, Jean-Pierre ?
Oui.
Oui.
Alors Manu, qu'est-ce qu'il a posé comme question déjà ? Ah oui, c'est l'ancienneté du phénomène.
Mm-hmm.
Bon bah là encore, c'est logique. Maintenant, je crois que le problème le plus important, c'est le problème de la synchronicité. Parce que il y a une question, on fait de l'astrophysique, on se dit on habite une galaxie dans laquelle il y a peut-être un million de planètes habitées, dans laquelle les gens évoluent, ceci, cela, etc. Maintenant, regardons notre propre évolution. Un million d'années, c'est rien. Mais un million d'années, c'est le temps qui nous sépare de l'Australopithèque. Hein? Alors, un million d'années plus tôt, on était sous forme d'une espèce de petit singe à peine capable de casser des cailloux. Et qu'est-ce qu'on sera dans un million d'années? Donc, ce million d'années, c'est correspondant à moins d'un centième de tour de galaxie, et étant complètement inexistant par rapport à l'âge de la Terre, il y a des gens qui disent « je ne comprends pas comment des gens arrivent à se rencontrer en se ressemblant hein ». C'est-à-dire que qu'il y ait des extraterrestres qui débarquent sur Terre et qui présentent une fenêtre d'intelligibilité par rapport à nous, ça paraît aussi improbable que le fait de se mettre à un arrêt de bus et de trouver quatre personnes qui portent le même nom que vous, qui soient nées le même jour, qui aient le même groupe sanguin, quoi. Ça, peut-être que c'est la même probabilité, quoi. Donc, il y a des gens qui disent « moi, je crois pas aux extraterrestres parce que c'est pas possible ». Alors, la réponse, c'est, si vous dites ça, vous présupposez que vous connaissez les lois qui régissent l'évolution de la vie dans l'univers. Et nous ne les connaissons pas. Il y a peut-être quelque chose qui règle un synchronisme. Et à titre de contre-exemple, je donnais quelque chose qui n'est qu'une hypothèse. Imaginons un phénomène qui permette de déclencher l'apparition de la vie au même moment dans tout l'univers avec une fourchette temporelle relativement faible. C'est-à-dire que l'univers, supposons qu'il ait 15 milliards d'années, je me fous mal de son âge, et supposons que la vie apparaisse il y a 3,5 milliards d'années, ni avant ni après. Comment est-ce qu'on fait pour donner le top départ partout dans l'univers? Ben, supposons que l'apparition de la vie passe par la synthèse clé d'une molécule qui ne peut se faire que dans le milieu interstellaire et en dessous d'une certaine température de rayonnement. Or, actuellement, on a une température de radiation qui fait 2,7 degrés K. Mais dans le temps, elle faisait 4, 5, 6, 7 degrés K. J'ai plus le calcul en tête, mais peut-être que il y a 3,5 milliards d'années, bon, bah, la température de rayonnement, c'était 7 degrés et demi. Supposons que cette réaction ne puisse se faire qu'à cette basse température. Alors, à ce moment-là, il y a des auditeurs qui pourraient dire, mais de quoi il me parle? Il me parle d'une biochimie qui se produirait en dessous de 7 degrés absolus. Bah oui, ça fait 30 ans qu'on sait qu'il y a une biochimie qui marche par effet tunnel. On va revoir et apparaître ce mot-là. Quand vous prenez un frigidaire, vous prenez deux réactifs A et B, à la température en lumière, ils réagissent. Puis quand vous baissez la température, la réaction s'arrête. Et puis vous baissez. Et après, quand vous arrivez à ces températures dans lesquelles les phénomènes quantiques deviennent prépondérants, ça redémarre par effet tunnel. Donc à ce moment-là, il s'agirait d'une réaction biochimique liée à l'effet tunnel. Et si cette réaction, elle ne démarre qu'en dessous de 7,5 degrés absolu, et si elle est indispensable à la création de la vie dans tout l'univers, alors la naissance de la vie est bloquée partout, parce que la température du fond de rayonnement est la même partout. Voilà un truc, c'est pas Dieu, hein, c'est pas Dieu qui agit, c'est le rayonnement qui rythme ça. Et dans les textes du mythe, il y a des choses qui évoquent cette façon dont la vie est rythmée. Hein. Et il est possible qu'elle soit relativement rythmée. Il est possible, par exemple, que dans notre environnement ou dans une galaxie, à des milliers d'années de lumière de distance, l'évolution humaine se situe dans une frange de 100 000 ans. Or, des gens d'il y a 100 000 ans, on pourrait discuter avec eux.
Les limites auxquelles avance en temps terrestre sur